Catherine Delacour,
bonjour.
Alors, quand et comment est née la notion totalement chinoise de lettré ?
La notion de lettré, elle est née extrêmement tôt, presque au 4e siècle avant notre ère, au moment très difficile pour la Chine, qui s'appelait une époque des royaumes combattants, et où tous les royaumes essayaient précisément de reconquérir l'unité chinoise. Et il y avait à ce moment-là toutes sortes de gens qui cherchaient à vendre leurs talents, leur savoir-faire. Et c'est de la sorte que les souverains de ces différents royaumes ont eu l'idée de faire travailler avec eux des gens de talent. Ce sont les premiers lettrés. Ensuite de quoi, et plutôt à la même époque, il y a eu M. Confucius qui a dit que l'étude était ce qu'il y avait de plus souhaitable, et que pour servir l'État, qui était une chose absolument nécessaire et celle de tout homme vertueux, eh bien, il fallait étudier. Et non seulement il fallait étudier, mais il fallait aussi sanctionner les études pour savoir qui était compétent et qui ne l'était pas. Et de la sorte, il a établi, en tout cas, la notion des examens mandarinaux, qu'on appellera plus tard les examens mandarinaux, et qui sont des examens qui ont la particularité tout à fait révolutionnaire, je crois, en tout cas certainement pour l'époque, de ne pas demander à ce que le lignage, la richesse entre en ligne de compte. En fait, n'importe qui, dans la mesure, bien sûr, tout ça est très relatif, mais dans la mesure où n'importe quelle personne du monde chinois de l'époque, qu'il soit paysan, noble ou roturier, s'il avait la possibilité d'apprendre par cœur ce qu'on appelle les classiques, était tout à fait possiblement candidat aux examens.
Comment définir l'univers du lettré chinois ?
Alors, l'univers du lettré chinois, dans la mesure où il s'agit de personnages qui sont des personnages de l'administration, donc ce sont des officiels, donc ils sont dans un univers qui est, comment dirais-je, rigoureux, triste, fermé, très protocolaire, particulièrement difficile parce qu'il y a toujours des luttes pour le pouvoir, il y a des calomnies, c'est un monde très âpre et très difficile, en particulier en Chine. Et par conséquent, les lettrés, en tout cas, qui sont très nombreux en Chine, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer quand on parle d'une élite, c'est une erreur, puisque les lettrés passent des examens et ils sont censés devenir fonctionnaires de l'État, et c'est vraiment ce qui est supposé être le plus beau métier du monde en Chine à cette époque, puisque, par exemple, quand on vous donne les vœux de bonheur qu'on prenne, la longévité, bien sûr, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, bien sûr, mais aussi et surtout celui de devenir fonctionnaire. Les trois bonheurs. Donc, en fait, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que c'est une vie extraordinairement difficile. De plus, les fonctionnaires lettrés sont affectés à différents endroits au vu des nécessités de l'État. Et surtout, l'une des règles, c'est de ne jamais les laisser très longtemps au même endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de passe-droit et de favoritisme. Ce qui fait qu'un lettré, finalement, n'a pas de terre, lui, n'a pas de lieu auquel il peut s'accrocher et qu'il peut aimer, sinon sa terre de naissance. En conséquence de quoi, parmi les lettrés, chez qui leur formation a éveillé peut-être, ou à moins qu'ils ne l'aient déjà eu, une sensibilité esthétique, une sensibilité artistique, du fait qu'ils sont lettrés, qu'ils manient le pinceau, qu'ils sont forcément calligraphes, ils sont aussi peintres, et ils ont cette sensibilité artistique quelque peu exacerbée par les difficultés de leur métier, et en conséquence de quoi, ils aspirent, dès lors qu'ils ont quelques moments de liberté, à se retrouver dans un endroit où ils sont seuls, tranquilles. Ils peuvent jouir soit d'un paysage s'ils sont dans leur jardin ou dans leur studio qui donne sur un jardin, soit de la présence de quelques amis triés sur le volet, ceux qui pensent comme eux, et à ce moment-là, ils s'adonnent à toutes les à tous les plaisirs, à toutes les joies que leur métier leur interdit d'exercer, à savoir la poésie, la calligraphie, la lecture, la discussion, boire, jouer de la musique, jouer aux échecs. Et cela, soit ils le font au moment, à leur rare moment de loisir, soit ils attendent d'arriver à l'âge de la retraite, et beaucoup font de la sorte, mais il y en a d'autres aussi qui décident quelquefois de démissionner ou qui jouent sur le fait que un deuil d'un parent exige 3 ans de réclusion pour s'éloigner des tâches administratives. Mais cela n'est, si vous voulez, le statut de ces personnages à ce moment-là est très ambigu. Il est à la fois celui qu'on envie parce que c'est celui précisément qui fait ce que tout le monde voudrait faire mais n'ose pas faire, et d'un autre côté c'est quand même aussi un statut un peu gênant dans la mesure où on ne sert pas l'État volontairement. Or à l'époque Tang, il y a un grand poète qui s'appelle Bao Juyi qui a qui a sanctifié cette façon, cette attitude, qui était un fonctionnaire émérite, qui a énormément travaillé pour l'État, qui a fait énormément de très bonnes choses en plus partout où il a été affecté, mais qui était un poète du fond du cœur et qui était en même temps, qui adorait s'éloigner du monde de l'administration et qui a défini dans ses poèmes ce qu'on appelle le reclus à demi. Ça s'appelle Zongin. Et c'est présent dans un de ses poèmes. Et à partir de là, si vous voulez, celui qui se retire à un moment donné pour s'adonner à ses besoins de création artistique n'est plus vu comme un renégat, en quelque sorte, mais comme un personnage, c'est admis. Alors c'est un peu ambigu, ça restera ambigu tout au long de l'histoire, à telle enseigne du reste que certains lettrés seront toujours un peu considérés comme des foyers possibles d'insurrection, de rébellion, parce que en fait ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, qui sont très individualistes au bout du compte, et bien sûr en Chine c'est dangereux. Donc il y a un statut très 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 ambigu, et il faut malgré tout une certaine force d'âme pour s'affirmer lettré à demi ou lettré retiré.
Oui, ils sont un petit peu marginalisés. Quel rôle a joué le taoïsme et aussi le confucianisme dans l'évolution de cette manière de vivre ?
Le taoïsme a été fondamental d'une certaine manière. Bon, je dis tout de suite, le taoïsme et le confucianisme sont deux modes de pensée qui sont conjoints en Chine. Il serait malséant de les opposer parce qu'en fait, ils sont issus d'un même substrat. Ce ne sont que les applications, pour parler un langage moderne, qui divergent, hein, puisque avec le confucianisme, on est lié au service de l'État, à la société, à la hiérarchie, et que en ce qui concerne le taoïsme, c'est beaucoup plus la recherche de la sagesse, mais individuelle. Donc ce sont deux modes de vie un petit peu différents, mais les conceptions de l'univers ou de l'homme de l'univers, de la recherche de l'harmonie avec l'univers, là, ils se retrouvent tout à fait. Donc il se trouve que la première manifestation très sensible de l'esprit lettré naît à une époque où le taoïsme prend vraiment le dessus, une des rares époques du reste où il le fait, puisque c'est à l'époque de la chute de la dynastie des Han, qui, elle, avait établi le confucianisme comme doctrine d'État. Et on s'aperçoit à la chute des Han que tout ça n'a pas marché. Et par conséquent, à cette époque-là, qui est une époque de trouble qui va durer plusieurs siècles du reste, on se dit que si le confucianisme ne marche pas, il faut bien essayer de trouver autre chose. Et effectivement, à ce moment-là, on s'intéresse à nouveau au texte Tao, au grand texte philosophique taoïste, et on discute beaucoup de taoïsme. Il y a tout un développement aussi de la quête d'immortalité, de longévité, Et ce sont essentiellement des gens très intéressés par le taoïsme qui ont lancé ce besoin de s'abstraire, non pas de ne pas servir l'État, mais de s'abstraire de ce service de temps à autre, de façon à pouvoir réussir de temps à autre à ne plus faire qu'un avec la nature.
Qui étaient les sept sages de la forêt de bambou ?
Alors ce sont des gens, personnages tout à fait historiques, qui étaient des fonctionnaires qui vivaient dans la capitale de l'époque, après la chute des Han, vers 250-260 de notre ère, à Luoyang donc, qui tous donc servaient l'État, mais qui étaient dans une... disons que la situation politique était extrêmement tendue, extrêmement difficile et aussi extrêmement dangereuse, parce que si on disait un mot plus haut que l'autre ou si on déplaisait à celui qui avait qui était le chef de la Chine à cette époque-là, mais les chefs ont changé souvent à cette époque-là, on risquait sa tête. Un certain nombre de ces personnes dans un lieu qui malgré tout restait extraordinairement cosmopolite et très ouvert et très cultivé, un certain nombre de ces personnes se réunissaient toutes, parce qu'elles avaient à peu près les mêmes idées, chez un de leurs amis, et cet ami qui s'appelait Ji Kang était un haut fonctionnaire, lequel était aussi profondément taoïste, quêteur d'immortalité, tout en étant confucéen, puisqu'il respectait tout à fait le service de l'État et la hiérarchie avec sa femme, sa famille, etc. Donc c'était quelqu'un qui était complètement chinois puisqu'il était à la fois taoïste et confucéen. Et cet homme avait aussi une autre qualité absolument extraordinaire, c'est qu'il jouait d'un instrument qu'on appelle le qin, qui est un instrument à cordes, et il a du reste aussi écrit un merveilleux poème sur le qin, dans lequel il raconte, non seulement il parle de la musique du qin, mais en plus il raconte comment on fait pour choisir le bois du qin. Et quand on lit ce qu'il raconte sur la façon dont on choisit le bois du qin, on ne peut pas ne pas penser à la façon dont Zhuang Zi, le grand écrivain taoïste du 4e siècle avant notre ère, décrit la façon dont le menuisier qui va faire une merveilleuse œuvre d'art sans savoir pourquoi, sans savoir comment, passe beaucoup de temps dans la forêt à rechercher le bois qui va lui servir pour faire le carillon, enfin le support de carillon qu'on lui a demandé.
Que s'est-il passé en mars 353 dans le pavillon des orchidées ?
Alors, il s'agissait d'une fête qui avait lieu tous les ans à la même époque, qui était en fait le retour du printemps et au cours de laquelle donc on se débarrassait en quelque sorte des miasmes de l'hiver. Et ce que l'on faisait d'abord, c'était de se réunir tous ensemble et d'aller se baigner dans une rivière. Et puis bon, ça c'est devenu peut-être un peu trop populaire et un peu trop peut-être qu'il faisait très froid à ce moment-là encore, et donc on s'est simplement contenté de se réunir tous ensemble, entre amis en tout cas, et puis de boire quelques coupes de vin ensemble. Et en 353, monsieur Wang Suze, qui était un fonctionnaire en poste, je crois même qu'il avait un poste militaire, pas peut-être fictif, mais quand même un poste militaire, était aussi un taoïste affirmé. Et il a décidé, ce printemps de 353, de réunir un grand nombre de ses amis dans sa propriété. Et il avait là un pavillon, et ça s'appelait le pavillon des orchidées. Et donc il a détourné le cours d'une petite rivière qui passait là. Et donc, ce qui a fait un cours, une petite rivière très petite, très sinueuse. Et l'idée, c'était de faire passer des coupes de vin sur cette eau, et que tous les invités qui se trouvaient là, assis sur les berges, soient amenés à composer un poème. Et par conséquent, la sanction était la suivante: celui qui compose un poème a le droit de boire une coupe, celui qui n'a pas composé de poème doit boire deux coupes, et s'il n'a toujours pas composé de poème, il lui faudra boire les trois coupes à la suite. Alors, au bout du compte, presque tous les invités ont réussi à écrire un poème. Et à la fin de la journée, Wang Suze a décidé de réunir tous ses poèmes ensemble et de faire une préface. Et c'est là que l'histoire devient emblématique, à savoir que Wang Suze a pris son pinceau et a calligraphié un poème qui était la préface à l'ensemble de cette réunion d'autres poèmes écrits par ses amis, et que cette préface, la calligraphie, le type de calligraphie qu'il a utilisé à ce moment-là précisément, est resté quelque chose qui n'a jamais pu être imité depuis et qui est pour tous les peintres chinois l'exemple même de la plus belle calligraphie qu'il soit. Et du reste, ils ont appelé Wang Suze le prince des calligraphes.
Et du coup, il appartient maintenant à la mythologie du lettré. Alors, l'homme chinois entretient avec la nature des rapports dont nous avons perdu en Occident jusqu'au souvenir.
Je crois bien, oui, en effet. Je ne sais pas si l'homme chinois de nos jours a toujours le même sentiment et le même comportement. Ça, je ne peux pas en juger, mais il est clair que pendant toute la période historique classique, il y a un lien extrêmement étroit entre l'homme et la nature, qui là n'est ni taoïste ni confucéen, mais qui est simplement chinois, je dirais, et qui tient simplement à ce que l'homme se considère en Chine comme une partie de l'univers, un élément de l'univers, et il ne doit pas aller contre cet univers, au contraire, il doit se fondre avec lui.
Comment définir le qi, cette notion un peu mystérieuse pour nous ?
Mon Dieu, alors ça, c'est pratiquement impossible. On traduit souffle, on traduit souple vital, on traduit énergie. Je pense que ça fait partie de ces mots qui, en chinois, sont parfaitement intraduisibles. Donc on a des mots qui sont approximatifs, et c'est très difficile de donner vraiment quelque chose de qui soit près de la réalité. Je pense que c'est peut-être énergie qui pourrait être le plus proche, dans la mesure où, dans la façon de concevoir la naissance de l'univers, hein, il est question donc d'indifférencié, de un, de quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi et ce n'est pas défini dans les textes, mais ce quelque chose qui se passe détermine une polarisation du souffle en yin et en yang. Donc il est vraisemblablement question d'énergie. Mais bon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En tout cas, ce qui est très intéressant à propos de ce souffle, c'est que la conception de la matière en Chine fait que toute matière, quelle qu'elle soit, animale, végétale, humaine, est faite de ce souffle. Par conséquent, il n'y a pas de frontières comme nous les trouvons, ou nous avons l'habitude de les mettre entre les différents domaines. Donc, un rocher, au bout du compte, une plante, un homme, tout ça, c'est fait de la même chose, et ça peut, avec le temps, devenir l'un ou l'autre, puisque l'univers n'est fait que de transformation perpétuelle.
Alors, pas de différence entre nous et le rocher, mais que symbolise ce rocher finalement dans la tradition chinoise ?
Alors, il symbolise énormément de choses. Et disons, pour résumer, qu'il symbolise la montagne. La montagne étant le pilier de l'univers, ce qui relie le ciel et la terre, comme l'homme du reste, et la montagne étant conçue comme un microcosme de l'univers. Par ailleurs, le rocher, vu comme une montagne, a été utilisé pour symboliser les îles des immortels. C'est la première utilisation du rocher symbolisant une montagne, et ça s'est passé au deuxième siècle avant notre ère. sous les Han, avec en particulier un empereur qui était absolument passionné par l'histoire des immortels et qui voulait absolument les rencontrer, et qui s'est dit que comme il n'arrivait pas par le bateau à arriver jusqu'à ces fameuses îles qui disparaissaient dès lors qu'on s'approchait un petit peu trop d'elles, il s'est dit, après tout, magie sympathique, microcosme et macrocosme, je vais faire des rochers qui vont ressembler aux montagnes des immortels, et avec un petit peu de chance ça attirera les immortels. Et c'est la naissance du jardin chinois en fait, et la naissance aussi du rocher conçu comme une montagne. Alors je ne sais pas du tout si ça a marché, personne ne le dit, l'histoire ne le dit pas non plus. En revanche, ça a bien marché pour les jardins, puisque on a peu à peu établi cette notion du jardin qui représente un microcosme et dans lequel donc tous les rochers vont servir de représentation de la montagne. Et petit à petit, et ça va se passer à peu près à l'époque Tang, au 8e siècle de notre ère, on va se dire aussi qu'après tout, c'est bien beau d'avoir un jardin, c'est quand même bon, c'est très bien, c'est un univers en petit, mais après tout, pourquoi ne pas avoir cet univers en petit chez soi? Et le meilleur moyen, en fait, c'est d'avoir un morceau de rocher que l'on va mettre chez soi, et qui du coup va avoir la même fonction qu'un paysage, la même fonction qu'une montagne, et qui va donc permettre à celui qui contemple ce rocher, qui est chez lui, sur sa table, dans son studio, de rêver qu'il est en train de se promener dans une montagne sacrée, ou bien qu'il va traverser les perforations du rocher, entrer dans la grotte des immortels et rêver qu'il rencontre des immortels. Donc tout l'onirisme chinois est présent dans la contemplation du rocher.
Donc finalement, ce rocher est un outil de méditation et fonctionne comme une métaphore du monde.
Une métaphore de ?
Du monde.
Ah oui, absolument. Oui. Et outil de méditation, oui, bien sûr, puisque je ne sais pas si c'est. Est-ce que je ne pense pas se rechercher comme un outil de méditation. C'est un outil qui permet. Non, c'est un outil qui permet de rêver et de s'approcher, de rapprocher l'être humain de l'union avec l'univers. Donc on est très proche de la création, du sentiment créatif, de la création.
D'ailleurs, on les appelle aussi les pierres de rêve.
Non, les pierres de rêve, c'est pas tout à fait ça. La pierre de rêve, en fait, c'est quelque chose, c'est très particulier. Il s'agit de ces plaques de marbre qui se trouvent, en plus, qui sont découpées de façon relativement fine et qui ont toutes sortes de veines, et ces veines dessinent soit des paysages, soit des animaux, soit toutes sortes de choses. Et on avait pris l'habitude de regarder ces pierres, évidemment, comme des paysages, souvent. On les inclut dans un cadre. Alors, soit on les inclut dans un cadre qui est posé et qui peut servir d'écran de table à ce moment-là, ou bien on les met dans un cadre circulaire que l'on peut suspendre au mur. Et c'est ça qu'on appelle la pierre de rêve.
Très bien. Alors, ces pierres ont des formes que l'on pourrait qualifier de bizarres, et elles sont pleines de trous. Alors, comment on est arrivé à créer ces formes ?
Ah bon, on n'a pas créé ces formes. On les a pas créées. Justement, c'est là, c'est tout l'intérêt de ces rochers, à savoir que ce sont précisément leurs formes naturelles et tout à fait extraordinaires qui manifestent donc tout le travail merveilleux de la nature, et c'est ainsi qu'ils l'appellent, qui fait qu'ils sont discernés par l'œil du lettré qui s'intéresse à tout ce que produit la nature, parce qu'il est très très proche de tout ce que produit la nature et émerveillé devant ce que la nature est capable de faire, et par conséquent qu'ils soient denses, ravinés, avec des textures tout à fait étranges, et qu'ils soient pleins de trous, il y a toujours une signification, soit pour le lettré chinois en tout cas, soit que l'ensemble de la forme ressemble à l'une de ces multiples montagnes si belles en Chine et qui sont très appréciées pour leur qualité, soit poétique, soit de paysage, soit parce que les perforations permettent d'imaginer que l'on passe, on est yin et yang et on passe dans un autre monde, et plus encore, lorsqu'il y a des perforations d'une certaine forme, si elles sont bien soutenues par leurs parois, ils peuvent imaginer qu'il s'agit là de ces grottes ciel dans lesquels on suppose que résident des immortels terrestres et donc que l'on peut, en rêve, voyager à travers ces grottes et rencontrer, qui sait, des immortels.
Alors ces pierres sont montées sur un support qui leur donne aux yeux des Occidentaux le statut de sculpture, mais aux yeux des Chinois aussi.
Pas vraiment, puisque en fait la pierre, c'est la pierre elle-même qui porte toute sa charge onirique, mythique, de méditation. Le fait de la mettre sur un support, d'abord, ça n'est pas arrivé tout de suite. On a commencé par les poser tout bêtement comme ça, directement sur la table. Du reste, même encore de nos jours, les collectionneurs chinois, pour certaines de leurs pierres, ne les mettent pas sur un support. Alors on les a mis sur un support à une époque bien déterminée, donc c'est à l'époque des Ming, où l'esprit lettré a vraiment explosé, est devenu particulièrement actif et où en même temps il y a eu une conjugaison de ce fait-là plus celui du développement du travail du bois et des racines, en particulier dans le sud de la Chine. Donc ces choses-là se sont combinées et du fait on a imaginé que l'on pouvait placer le rocher sur un support en bois et à ce moment-là effectivement c'est pas vraiment qu'on lui donne le statut d'objet d'art parce que il n'est pas conçu comme ça en fait en Chine, mais on lui donne un statut, c'est-à-dire qu'il a une existence encore plus forte que s'il n'était pas sur un support. Et par ailleurs, le support est extraordinairement bien lié à la pierre elle-même, soit parce qu'il en épouse de façon étroite les formes, y compris la partie inférieure qui est en rapport précis avec la face inférieure c'est-à-dire que la face supérieure du support épouse très étroitement la face inférieure de la pierre, à telle enseigne du reste que je ne sais pas par quel miracle, mais souvent des pierres très grandes sont sur des supports en bois minuscules et pourtant ça tient merveilleusement bien. Par ailleurs, il y a une école du Nord en principe où les supports sont très simples, rectangulaires, et laisse beaucoup d'espace à la pierre. D'autres dans le sud où ils sont beaucoup plus liés à la forme de la pierre l'entourent de façon très étroite et en même temps peuvent avoir plusieurs registres et sont surtout très caractéristiques parce qu'il y a des espèces de dessins qui ressemblent un peu à des mamelons. Personne ne sait au juste ce qu'ils signifient, mais un certain nombre de savants pensent que soit ça évoque les mamelons qui se trouvaient sur les cloches autrefois et qui étaient des outils qui permettaient de modifier le son, soit ce sont simplement des débuts de stalactites, ce qui pourrait très très bien marcher avec le rocher puisque c'est un élément de montagne.
Alors la peinture de paysage fascine toujours les artistes chinois d'aujourd'hui et Zhang Xiaochun et Liu Dan en sont de bons exemples.
Peinture de paysage.
Quand je vois les œuvres de ces deux artistes, ça m'évoque un paysage, même si je sais par ailleurs que ça n'en est pas.
Alors, en ce qui concerne Zhang Xiaojun, c'est un petit peu difficile de parler de peinture de paysage parce que les peintures de Zhang Xiaojun sont des peintures qui sont issues de sa passion de collectionneur. Donc, en fait, il va essentiellement aller jusqu'au bout de sa passion et de son admiration pour les œuvres qui font partie de sa collection en les peignant. Il les peint à plus grande échelle, mais avec une précision absolument extraordinaire. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un paysage. En revanche, je sais que Liu Dan parle de ces, nombre de ses peintures comme des paysages, paysages à l'encre. Il est peut-être difficile d'y reconnaître un paysage. En fait, pour Liu Dan, c'est très particulier parce que lui, c'est sa passion pour la science moderne actuelle qui permet, par exemple, avec un microscope, de regarder, de voir des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu. Il a un petit peu cette façon, lui, de regarder les pierres qui le fascinent. Et c'est à partir de là qu'il y a dans son esprit, dans sa tête, je ne sais pas, c'est très compliqué, c'est très difficile à expliquer, mais un long voyage qui se fait et qui se transmet au pinceau et qui fait qu'il nous produit des choses qui ressemblent à des montagnes, à de l'eau, à de la pierre, on ne sait pas trop. Mais il appelle ça, lui, un paysage, et c'est extrêmement puissant et très fort. Il y a ça d'un côté avec le Dan. D'un autre côté, lui, il fait non pas des paysages, mais des portraits de pierres, parce qu'il est vraiment fasciné par les pierres.
Qui collectionne aujourd'hui les rochers de Lettré ?
De très nombreux, de très nombreuses personnes en Chine, tous ces lettrés qui ont gardé et conservé un esprit lettré que l'on connaît très peu, parce que le lettré qui a possède cet esprit lettré en général est une personne qui n'en fait pas tellement étalage, qui reste discrète. Mais je crois que peut-être dans n'importe quelle maison chinoise vous trouverez dans un coin un rocher qui traîne quelque part.
Bien, j'y ferai attention la prochaine fois que j'irai dans une maison chinoise. Catherine Delacour, merci.